Nous le connaissons par cœur, cet évangile. Il est long, mais nous l'aimons bien. Je vous propose aujourd'hui de comprendre à quel point ces deux pèlerins nous ressemblent. On dit que ce sont des disciples. Plus exactement, le texte dit « ils sont des nôtres ». Ils sont deux membres du groupe rapproché de Jésus. Certes, ils ne sont pas des apôtres, mais ils font partie du deuxième cercle des nôtres. Ils ont été instruits par Jésus lui-même, très certainement. Ils sont sur qui on avait fondé quelques espoirs. Très certainement aussi, ils ont fait partie du groupe des 72 qui ont été envoyés en mission. Et là, on voit qu'ils quittent Jérusalem dans un moment de crise et de découragement. Ils retournent sans doute vers leur village pour cultiver leurs champs, retrouver leur famille, bref, la vie d'avant. On dit qu'ils se disputent entre eux. On a un peu arrondi les affaires. On dit qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, mais ils se disputent en fait. Ils essayent de refaire les événements, le film des événements passés. Manifestement, ils ont une interprétation différente l'un de l'autre. Sans doute qu'ils se posent la question de la responsabilité de ce qui est arrivé. Peut-être se reprochent-ils l'un l'autre une certaine imprudence d'avoir suivi Jésus, d'avoir cru en lui. Comme il arrive chaque fois, quand les choses ne tournent pas bien, on cherche des responsables, voire des coupables. La tristesse, le mécontentement ont besoin, oui, de se défouler. Et c'est dans ce contexte que Jésus s'approche. Il se met à faire route avec eux. Une fois encore, c'est le Dieu miséricordieux qui s'approche de l'homme troublé, du disciple désemparé qui a besoin d'être consolé, voire réévangélisé. Jésus se met à cheminer avec eux sans rien dire. Il ne les oblige pas à baisser le ton dans leur dispute. À un certain moment, quand même, il finit par leur demander l'objet de cette dispute. Et alors là, Jésus choisit la méthode progressive des questions pour que le nœud du conflit émerge peu à peu de lui-même. Nous sommes, dirait saint Ignace, en pleine conversation spirituelle où Jésus les aide à chercher par eux-mêmes. Il ne les bouleverse pas, il les amène à extérioriser leurs troubles, à dénouer leur angoisse en la regardant en face. Et de fait, la réaction des disciples est abrupte. Tu es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir, sous-entendu, d'où sors-tu ? On sait bien que le premier mouvement négatif n'exprime rarement les véritables sentiments. Donc Jésus le sait, il accueille cette réaction plutôt désagréable. Et la conversation s'enchaîne de façon étrange, parce que les deux disciples récitent leur credo. Ils récitent le kérygme, c'est-à-dire le noyau dur de la foi primitive. On retrouve les mêmes mots qu'emploieront Pierre et Paul dans leur discours, dans les Actes des Apôtres. Et ces hommes annoncent le message comme si c'était un malheur, une mauvaise nouvelle. On dit ils ont l'air sombres, on pourrait même traduire ils font une tête d'enterrement. Et Jésus, face à cette contradiction flagrante que la bonne nouvelle est devenue une mauvaise, va réagir là de façon abrupte, courageuse. Parce qu'on n'aime pas brusquer, mais quand il faut, il le faut. Ô gens sans intelligence, lents à croire, vous, disciples de Jésus du premier cercle, tout l'enseignement que vous avez reçu ne vous a donc rien appris ? Vous n'avez donc pas écouté ? Le grand problème de ces deux disciples, je le disais au début, c'est ça le cœur du message d'aujourd'hui, c'est le nôtre. Chaque fois que surgit un non-sens, nous posons à Dieu la question, parfois de manière presque, j'allais dire agressive, non, mais au moins peut-être dans la colère, mais Dieu, alors où donc es-tu? Pourquoi ne te montres-tu pas plus? Où est ta puissance? Déjà le psalmiste disait, pourquoi te caches-tu au Seigneur? Pourquoi dors-tu? Et la réponse de Jésus va se faire très exigeante, mais elle est la seule clé qui permet d'interpréter ce qui est arrivé le Vendredi Saint. Cette clé est à manier avec précaution, mais elle nous est confiée dans ce temps de Pâques. La clé, la voici. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? Frères et sœurs, vous et moi, je pense que nous allons mettre une vie à assimiler cette clé. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? Parce que l'amour de Dieu, la puissance de Dieu et la souffrance, elle ne fait pas bon ménage dans notre cohérence. Mais Jésus se met à refaire une catéchèse en disant que c'est déjà dans l'Écriture, le plan de salut. Vous ne l'avez donc pas lu, vous savez pourtant quelle épreuve fut imposée à Abraham. Vous savez que le peuple hébreu, au passage de la mer Rouge, il a cru qu'il allait être submergé et noyé. Vous ne croyez pas au dessein providentiel de Dieu qui passe toujours par des voies qu'on n'attend pas. Ce dessein providentiel de Dieu qui passe toujours par des voies qu'on n'attend pas. Oui, je reste aujourd'hui sur cette difficulté majeure qui est la nôtre, qui est peut-être encore plus celle qui sont dans les chrétiens qui sont dans la grande épreuve. Comment est-il possible de croire à la providence d'un Dieu qui permet de telles choses monstrueuses dans ce monde que pourtant il aime? Alors nous avons certes une réponse logique. Nous pouvons toujours dire que la responsabilité en revient aux humains que Dieu a créés libres, qu'il nous a mis à la merci des uns et des autres pour le bien et pour le mal. Mais on voit bien que cette réponse logique, même si elle est vraie, ne suffit pas. La clé est vraiment dans cette phrase « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ?» Mais cette clé, elle est difficile à assimiler. Je pense que, en fait, la réponse, nous l'avons dans la suite du récit. Oui, c'est question majeure. Et il est relativement facile de les traiter à froid, mais quand elles sont à chaud, c'est si différent. Mais ces questions majeures trouvent une réponse par la présence de Jésus et de son Esprit à ses côtés, à nos côtés. Cette présence qui réchauffe nos cœurs, qui les rend même parfois brûlants et qui nous rend capables de saisir à nouveau le plan de bonté de Dieu sur le monde et de nous y engager. Ces cœurs brûlants qui nous rend capables de saisir à nouveau le plan de bonté de Dieu sur le monde. C'est cette grâce que nous demandons aujourd'hui. Amen.